Bonsoir à toutes et à tous. Moins 0,12%, les taux d'intérêt en France s'instablent durablement en territoire négatif. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce à dire que désormais, on peut gagner de l'argent simplement en s'endettant, en empruntant? Comment expliquer ce dérèglement des taux d'intérêt? Quelles conséquences sur notre épargne, sur l'immobilier, sur l'économie? Est-ce que plus que jamais, c'est le moment d'emprunter pour investir ou pour procéder à un achat immobilier? Cette anomalie des taux négatifs nous annonce-t-elle un krach prochain? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Taux négatifs, aubaine ou catastrophe ?». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Marc Daniel, économiste, professeur émérite à l'ESCP Europe, directeur de rédaction de la revue Sociétale et auteur du Gâchis français chez Talendier. Nous accueillons Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, directeur adjoint du département Analyse et Prévision. Jésabelle Coupé-Souméran, vous êtes maîtresse de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-auteur de Parlons Banque en 30 questions, publiée à la Documentation française. Et enfin, Solène Poulenec, journaliste aux Échos, spécialiste des questions d'épargne et de placement. Alors, tout d'abord, je m'adresse à vous, Jean-Marc Daniel, qui êtes professeur et qui enseigne auprès d'élèves. Comment expliquez-vous à vos élèves ce qu'est un taux d'intérêt négatif? Est-ce que c'est, par exemple, je vous prête 100 euros et au bout d'un an, vous me rendez 99 euros, c'est ça?
Oui, je leur explique ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils comprennent assez vite. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est pourquoi on en est arrivé là. C'est-à-dire, quel est l'intérêt de quelqu'un de prêter 100 pour récupérer après 99? Alors, on peut considérer qu'il faut réfléchir à ce que les 99 n'ont pas un pouvoir d'achat supplémentaire par rapport aux 100. Est-ce qu'il ne s'est pas passé des événements extérieurs qui font qu'avec 99, on a en réalité...
Dans un an,
on a une capacité de dépense plus grande que n'en avaient les 100. Mais de toute façon, la question qui se pose assez naturellement, pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas les 100 sous forme de billets? Au bout d'un an, on a toujours 100 et on a un pouvoir d'achat, il y a un pouvoir d'achat de 100 et non pas de 99. Et alors là, ça devient compliqué à expliquer. Pourquoi est-ce que, effectivement.
Alors, rationnellement, on a intérêt à les gagner en billets,
à les garder en billets. Et non seulement rationnellement, mais c'est ce qu'on constate sur le terrain. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des billets, il y a de plus en plus de gens qui gardent leur argent sur leur compte courant. C'est une des grandes caractéristiques de ce qui se passe en ce moment. C'est qu'en zone euro, par exemple, vous avez 10% de la production, l'équivalent de 10% de la production sous forme de billets, alors qu'il y a 15 ans, au moment au début de la zone euro, il n'y en avait que 5%. Donc les gens, ils sont ce réflexe un peu naturel.
Il y a le risque, si on garde des billets chez soi, de se les faire cambrioler.
Ce qu'apporte comme service la personne à qui vous prêtez les 100 et qui vous rend 99, c'est que normalement, vous êtes sûr de récupérer la 99. Si vous avez des billets sous forme de, effectivement, sous votre matelas, s'il y a un cambrioleur, vous avez zéro à la fin.
Voilà, alors Mathieu Plane, exactement, donc c'est la question. Quand on prête de l'argent, théoriquement, on est rémunéré parce qu'on va le récupérer plus tard, donc le temps est rémunéré. On est rémunéré parce qu'on ne sait pas si on va vous le rendre, le risque est rémunéré. Tout ça, ça vole en éclats. Là. Tous les concepts, ce sont des concepts de base de l'économie qui volent en éclats quand même.
Oui, ils volent en éclats. En même temps, le risque n'a pas disparu. Ce qui est quand même assez intéressant dans cette analyse-là, c'est de voir que, et on en parle beaucoup, jamais les États ont été aussi endettés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, jamais ils ont emprunté à des taux aussi bas. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, le risque existe. Mais les investisseurs qui veulent garantir leur épargne, en fait, vont acheter des titres d'État. Et comme il y a beaucoup de demandes de titres d'État...
Et tous les États ne sont pas notés pareil, alors?
Et tous les États sont... Alors, aujourd'hui, les grands États, les principaux, ont des taux qui sont quand même très bas. On voit dans la plupart des pays de la zone euro, on est passé en taux négatif. Ce n'est pas encore le cas. Il y a l'Italie qui reste quand même un peu particulier là-dedans.
Ça veut dire que quand on prête à l'Italie, on a peur qu'elle ne vous rembourse pas. Donc, pour le coup, là, on lui exige un taux d'intérêt positif.
Il y a une prime de risque. C'est-à-dire qu'il y a une prime de 2 points à peu près de taux par rapport à l'Allemagne, ce qui est quand même conséquent. D'ailleurs, on peut voir les montants que ça engage. C'est plusieurs milliards d'euros supplémentaires de charges d'intérêt pour l'Italie par rapport à l'Allemagne.
Les taux sont à moins 0,12, mais en Italie, ils sont à plus 2%.
À peu près. Voilà. On est même à 1,8, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, il y a une différence quand même qui est notable. Mais globalement, dans le monde actuel, les titres d'État et donc les obligations publiques sont des valeurs refuges. Et donc aujourd'hui, malgré des dettes très élevées, finalement, les États empruntent à des taux bas parce qu'il y a beaucoup d'épargnants, il y a beaucoup d'épargne mondiale, il y a assez peu d'investissements. Et donc cette épargne va finalement financer la dette, des dettes et des taux très bas. Et donc on est dans ces circonstances très particulières où des dettes très élevées, mais des taux d'intérêt très bas, ce qui fait que c'est quand même effectivement une aubaine incroyable pour les États aujourd'hui.
Jésabelle Coupé-Souméran, pourquoi les taux sont négatifs? Qui fixe d'abord ces taux d'intérêt? C'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron, qui dit tiens, maintenant, ça va être moins 0,12. En ce moment, en France, ils sont à moins 0,12% pour les taux à 10 ans.
Non, ce n'est pas une fixation jupitérienne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut se resituer dans le contexte de la crise. Donc, il faut remonter, si vous voulez, 10 ans en arrière. Il y a eu une formidable crise financière en 2007-2008. Et les banques centrales ont dû réagir à cette crise. Alors, comment ont-elles réagi? Eh bien, dans un premier temps, en abaissant ce qu'on appelle le taux directeur, c'est-à-dire le taux auquel les banques empruntent auprès de la Banque centrale, puisque la Banque centrale, c'est la banque des banques. Donc, quand les banques
cette
ont besoin de...
La Banque centrale à Francfort avec Mario Draghi, là, le gouverneur, qui
c'est
va
ça,
être remplacé
et bientôt,
par
Christine Lagarde.
Christine Lagarde.
Exactement. Donc, si vous voulez, en pleine crise financière, les banques centrales interviennent, elles abaissent le coût des liquidités que les banques peuvent obtenir auprès d'elles. Et elles ont fait ça jusqu'à un certain taux plancher. Donc le taux directeur qui arrime les autres taux du marché à court terme sont tombés très très bas. Et puis ça n'a pas suffi. C'est-à-dire qu'il a baissé les taux et abreuvé les banques de liquidités, ça n'a pas suffi. Il a fallu ensuite que les banques centrales procèdent à des achats massifs de titres
Alors,
sur les marchés financiers.
Alors ça, ce sont des outils supplémentaires pour permettre d'avoir des taux encore plus bas, on comprend
c'est
bien.
Ça.
Mais l'objectif, donc, c'est la Banque centrale qui, au lendemain, si je vous ai bien compris, de la crise, s'est dit il faut relancer l'économie et donc on va baisser les taux à 0% et même on va les mettre en négatif.
Pour vraiment... non, si je finis mon raisonnement sur les achats d'actifs, en fait, lorsque les banques centrales procèdent à des achats massifs de titres sur les marchés financiers, eh bien, ça fait baisser le taux de rendement exigé, si vous voulez, de ces actifs. Ça fait monter le prix de ces actifs, ça fait baisser le taux. Et eh bien, ce taux finit par baisser jusqu'à parfois entrer en terrain négatif lorsque, en fait, les investisseurs se disent « Bon, certes, je ne vais rien gagner à acheter ce titre, mais je perdrai sans doute moins en le détenant. » D'accord ? Donc, il y a une logique, il y a une rationalité en situation d'incertitude à détenir des titres qui ne rapportent rien, mais dont on est à peu près sûr que quand on les revendra, eh bien, on perdra moins, voire même on gagnera, parce qu'entre-temps, le prix du titre aura
pu augmenter. Si je me trompe, mais il y a une volonté délibérée de la Banque centrale qui a un taux de dépôt de moins 0,4%. C'est-à-dire que quand on lui apporte de l'argent, on lui apporte 100 euros, le lendemain, elle ne vous rend pas 100 euros, elle vous rend 99,60 euros.
Alors, si vous voulez, il y a plusieurs taux directeurs auprès de la Banque centrale. Mais c'est juste pour comprendre que les taux d'intérêt négatifs, ça concerne, là, en l'occurrence, pour les banques centrales, ça concerne le taux auquel les banques laissent leur liquidité. Sinon, quand les banques empruntent des liquidités auprès de la Banque centrale, elles empruntent à zéro. Et quand vous empruntez auprès de votre banque, eh bien, vous n'empruntez pas encore à taux d'intérêt négatif.
Alors, Solène Poulenec, pourquoi ? Quel est l'intérêt de mettre des taux à zéro ? Que cherche ? Quel est l'objectif des banques centrales ? Pourquoi
l'objectif.
Est-ce qu'on on a mis les taux d'intérêt à zéro depuis 2008 et est-ce que ça a fonctionné, si tant est qu'il y avait un objectif ?
Pour pousser les banques à prêter et après pour relancer l'économie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques prêtent vraiment à des coûts très bas, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. Si vous êtes un particulier français aujourd'hui, c'est vraiment peut-être l'occasion d'aller voir sa banque pour emprunter et financer son logement, parce que jamais il y a eu des taux aussi bas en France aujourd'hui grâce à la politique de la Banque Centrale Européenne.
Voilà. Et ça a fonctionné, alors Mathieu Plane, est-ce qu'en mettant des taux à zéro, les gens se sont dit « Oh, c'est la fête, je vais emprunter pour investir et du coup, comme par magie, l'économie repart. »
Oui, alors c'est vrai que, comme ça a été dit, il y a eu un effet de diffusion des taux bas de la Banque centrale sur les taux de crédit aux ménages, aux entreprises. Donc ça a eu des effets, bien sûr. On le voit notamment en France, le crédit aux ménages, notamment aux entreprises, a fortement augmenté. La question, c'est est-ce que ça crée de l'investissement, est-ce que ça crée de la croissance ou est-ce que ça crée des actifs, des bulles, en fait. Le problème aujourd'hui, il était évident qu'il fallait réagir comme ça face à la crise. Il fallait que les politiques monétaires soient très agressives, relancer l'économie, baisser les taux, diminuer le coût du crédit. Ça permet d'investir, ça permet de consommer. La question, c'est est-ce que cet argent a été utilisé pour de la consommation ou de l'investissement ou est-ce qu'il a été utilisé pour finalement racheter d'autres actifs, c'est-à-dire de l'immobilier qui existait déjà, faire gonfler des prix, et c'est là le risque éventuellement de bulle, et c'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est si on doit sortir de cette politique monétaire très particulière de taux zéro, c'est comment aujourd'hui ça va gérer, comment ça va générer ou pas des effets sur les prix d'actifs, et est-ce qu'il y a des risques d'éclatement de bulle. Et donc c'est toute la difficulté d'une sortie de crise liée à des politiques monétaires extrêmement particulières.
Agressives, oui. Jean-Marc Daniel, justement, un mot sur ces taux négatifs. Vous, l'historien de l'économie, c'est nouveau, ça s'est déjà vu dans l'histoire
Alors,
récente
Des taux d'intérêt affichés comme étant négatifs, non. Pendant très longtemps, d'ailleurs, le prêt était condamné par tout un tas de structures. L'Église était contre les prêts, contre l'usure. Bon. Et donc, c'était très réglementé. Il faut bien voir qu'une banque centrale, par exemple, puisqu'on parle beaucoup des banques centrales, c'est né de façon très empirique, de façon très, très pragmatique. Hein. C'est les Anglais qui ont véritablement conçu ce qu'était une banque centrale. Et ça date du XVIIe siècle. Pendant très longtemps, on a vécu sans banque centrale. Et donc, en revanche, ce qu'on a connu, c'est des taux d'intérêt réels négatifs. C'est-à-dire, on avait un taux d'intérêt qui était affiché à 8-10%, mais comme il y avait le livret A, par exemple, dans les années 80, il avait 8% de taux d'intérêt, alors que maintenant, il est à 0,75.
C'est fantastique, 8%.
Oui, sauf que l'inflation était à 13%.
Ah.
Donc on était perdant. Le pouvoir d'achat qu'on récupérait à la fin était diminué. Et donc, en fait, il y avait un taux d'intérêt réel, ce qu'on appelle le taux d'intérêt réel, qui était négatif. Défalqué de l'inflation. Alors que là, on est dans une situation où, effectivement, vous avez cette nostalgie de cette période-là, parce que derrière tout ça, il y a de la nostalgie de l'inflation.
On pose 100, on récupère 108, c'est sympathique.
C'est sympathique. Et on n'arrête pas de dire, d'ailleurs, les gouvernements n'arrêtent pas de dire, il faut que la Banque centrale nous donne de l'inflation. Et M. Draghi, régulièrement, dit, j'ai un objectif de 2%, rassurez-vous, je vais y arriver. Bon, et puis l'inflation, elle est entre 1 et 1,2%. On est dans un monde sans inflation. La deuxième remarque que je ferai, c'est que la situation européenne est quand même un peu particulière parce qu'aux États-Unis, le taux d'intérêt à 10 ans est désormais au-dessus de 2%. Et les Américains raisonnent avec cette idée que le taux d'intérêt à long terme doit être égal au taux de croissance de l'économie. C'est-à-dire qu'un taux d'intérêt négatif, c'est artificiel et ça ne peut pas être durable. Il faut, à un moment donné, retrouver cette idée que sur le long terme, le taux d'intérêt doit être égal au taux de croissance de l'économie.
Il n'est pas négatif aux États-Unis.
Voilà.
Comment là, il n'est pas négatif aux États-Unis.
Le taux de croissance, il est au-dessus de 2%, le taux d'intérêt.
En revanche, en France, la baisse des taux d'intérêt est évidemment une très bonne nouvelle pour tous les emprunteurs. En particulier, elle se répercute sur les prix, sur les taux de l'immobilier. Voyez ce sujet de Laura Rado, Dominique Lemarchand et Diane Cacciarella.
Bonjour.
Julien Hubert est un jeune divorcé de 39 ans. Actuellement locataire, ce père de deux enfants désire à présent devenir propriétaire de son logement.
On peut faire la cuisine de ce côté-là aussi.
C'est très très bien pensé.
Pour acheter un appartement situé dans cette banlieue parisienne cossue, il a obtenu un prêt de 180 000 euros sur 25 ans, à un taux d'intérêt de 1,4%.
Super.
Comme je vous avais dit, les deux chambres, le grand salon, et en tout, vous avez 68 mètres carrés.
D'accord. Au début de mes recherches, je ne pensais pas pouvoir prétendre éventuellement à ce type de bien. Mais effectivement, depuis quelques mois, avec la baisse importante des taux immobiliers, ça permet vraiment de pouvoir relever, si vous voulez, son budget. Oui. C'est des mètres carrés en plus et c'est du standing en plus également. Donc là, et puis même un box en plus finalement. Donc la baisse des taux fait que j'ai bien pu réévaluer mon budget de 15 à 20 000 euros quand même.
Et Julien ne fait pas figure d'exception. Le taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers n'a cessé de baisser depuis 2008 pour atteindre son plus bas niveau au mois de juin à 1,25%. Un record qui donne à beaucoup l'envie de déménager ou même de renégocier son prêt. C'est le cas de Jean Mariani. Ce professeur d'université rembourse déjà deux emprunts pour son appartement et sa résidence secondaire.
La maison, finalement, en Corse, une maison très originale, revient plus cher que ce qui était prévu initialement. Donc je dois trouver des fonds additionnels pour finir cette maison dans tous ses détails et pouvoir en profiter pleinement le plus vite possible.
Comme d'autres particuliers, il s'est donc tourné vers un courtier pour renégocier ses prêts avec les banques. Et les résultats sont au-delà de ses attentes.
On n'est plus à 1,70 comme ça l'était. On va être à 1% sur 180 mois. Donc je rajoute un tout petit peu en durée. Et j'arrive à une mensualité de 2835.
Le taux de son deuxième crédit est même descendu de 1,4 à 0,15%. De quoi dégager 125 000 euros supplémentaires pour les travaux. Pour cet intermédiaire dans le métier depuis 20 ans, la situation n'a jamais été aussi avantageuse pour les emprunteurs.
Je n'ai plus aujourd'hui engagé pendant 20 ans sur une banque avec un prêt. Ça a vraiment eu un changement dans les mentalités. Donc il est courant d'avoir le même prêt qui a été renégocié 3-4 fois.
Et les gagnants se comptent aussi parmi les entreprises.
On arrive exactement dans la, Dans la partie qui nous concerne, c'est la cosmétique.
Cette start-up spécialisée dans les produits naturels a mis au point un brevet innovant. Alors, pour démarrer la production, son patron a obtenu un crédit de 40 000 euros à 1%, juste ce qu'il lui fallait pour passer à la vitesse supérieure.
C'est phénoménal, hein. C'est-à-dire qu'on est passé d'ici d'une production de 20 litres par jour à 2 tonnes jour. Donc ça nous permet aujourd'hui de répondre à des appels d'offres pour les États-Unis qui parlent en centaines de milliers de flacons, hein, des petits flacons comme ça. Donc si vous voulez, quand vous en êtes à 200, 300 et que vous passez à 2000, 3000, 4000, 100 000, c'est une énorme différence.
Une différence qui permet à cette société de tabler en 2020 sur un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Mais ces taux historiquement bas font naturellement des perdants, les épargnants. Le livret A rémunéré à 0,75% ou l'assurance vie à 1,8% en moyenne ne rapporte plus rien, combiné à une inflation à 1,8%. Paradoxalement, les Français continuent de privilégier ces placements peu rémunérateurs et même de laisser dormir leur argent sur leur compte courant.
Voilà, on en a parlé. Alors, question téléspectateurs. Les taux extrêmement bas boostent la demande et font grimper les prix immobiliers. Quels sont ceux qui en profitent réellement ? Jezabel Coupé-Soubéran, sont les jeunes qui achètent, qui en profitent ?
Généralement, ce ne sont pas les plus jeunes, hein, qui peuvent acheter et qui peuvent contracter des prêts immobiliers. Donc, ce sont plutôt les actifs, d'accord, qui peuvent effectivement profiter des taux bas pour faire un emprunt immobilier. Mais bon, il faut quand même, si vous voulez, être assez prudent. C'est plus au niveau macro, mais quand on regarde l'évolution du crédit immobilier, il faut être très très attentif parce que généralement, quand on a un emballement du crédit immobilier, eh bien, ce qui se produit ensuite, c'est un emballement des prix de l'immobilier et donc on assiste à ce qu'évoquait Mathieu tout à l'heure, à la formation d'une bulle immobilière. Et ça, généralement, c'est un facteur avant-coureur de crise financière. Donc, oui, bien sûr que ces taux bas sont l'occasion de...
Vous êtes en train de dire que ces taux bas, il faut monter dangereusement les prix d'immobilier, presque un peu artificiellement,
et
c'est décorrélé de la vie réelle des gens, quoi. Ça
augmente, si vous voulez, la demande de ces actifs immobiliers, donc nécessairement ça fait monter le prix de ces actifs immobiliers. Quand on voit le prix de ces actifs augmenter, ouais, on se dit, bien, si moi aussi j'achète, ça va continuer d'augmenter, je pourrais revendre plus cher. Donc tout le monde achète en voyant les autres acheter. C'est ça qui est assez fantastique, en fait, sur les marchés financiers et sur les marchés de l'immobilier, c'est que quand le prix monte, eh bien vous n'achetez pas moins, au contraire, vous achetez davantage parce que vous vous dites que ça va continuer de monter et que vous profiterez de cette hausse. Et c'est comme ça que les bulles se forment et c'est comme ça que les crises financières arrivent.
Donc attention sur la hausse de l'immobilier suscitée par cette baisse des taux, ça pourrait se retourner.
Oui, c'est quelque chose qui doit se réguler, voilà. Vraiment.
Mathieu Plane, en revanche, c'est pour l'État que c'est fantastique les taux très bas.
Oui.
Il emprunte peu cher, non ?
C'est pour là, les pour le différents coup, gouvernements. Il y a un effet d'aubaine. Et d'ailleurs, ça remet en question toute la politique économique. Hein. Aujourd'hui, il y a un grand débat, hein, chez les macroéconomistes sur savoir quelle est la bonne politique économique à conduire si on reste durablement dans ce contexte de taux bas. L'ancien chef économiste, Olivier Blanchard, hein, du FMI, qui est très connu, dit que, en fait, cette situation n'est pas une situation juste ponctuelle, mais qui va être durable.
Les taux vont rester bas pendant longtemps.
Voilà, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de vieillissement généralisé de la population des pays les plus avancés. On a une productivité faible, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça. D'accord. Une épargne excédentaire, assez peu d'investissement. Donc, on devrait rester avec des taux très bas. Donc, du coup, ça pose la question aujourd'hui. Les États sont en capacité de faire des investissements extrêmement intéressants avec des taux très bas. C'est-à-dire que si vous avez des taux qui sont négatifs, c'est-à-dire que le rendement d'un investissement va être très vite amorti. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il soit de 1%, par exemple, pour être gagnant. C'est-à-dire que n'importe quelle entreprise le ferait. Vous voyez les projets qu'il y a sur la transition énergétique. C'est colossal, c'est des milliards d'euros.
Alors pourquoi on ne le fait pas plus ? Alors pourquoi ?
Parce qu'on est sur des questions de règles budgétaires où on dit il faut être à l'équilibre budgétaire, les règles européennes sont très contraignantes. La question, c'est aujourd'hui, est-ce que dans ce contexte de taux bas, c'est une aubaine extraordinaire pour les États pour mettre en place des plans d'investissement sur 10, 20 ans qui engagent des montants importants, mais dont on a la certitude qu'il faut les faire. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les investisseurs vous disent, on vous prête très largement sur 10, 20, voire 30 ans. C'est énorme. Et donc, ça change toute la réflexion. C'est-à-dire que, effectivement, quand vous avez des taux à 4%, bah, dégager des projets qui ont cette rentabilité économique, sociale, c'est beaucoup plus difficile que quand vous êtes à zéro. En gros, aujourd'hui, les épargnants, vous dites, disent aux États, endettez-vous, investissez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque presque de dettes, c'est ce que ça veut dire, hein, par rapport à l'épargne qu'il y a. Et comme le privé investit assez peu, ça serait justement au public, justement, de générer cet investissement qui manque.
Alors, Solène Poulenec, on l'a compris, les taux d'intérêt sont bas. Ils sont bas pour ceux qui empruntent, mais ils sont bas aussi pour ceux qui placent. Ils sont bas pour tout le monde. Alors, quand on est épargnant, qu'on a un petit peu de pécule, là, on disait que l'immobilier était très haut, on ne sait plus tellement que faire de son argent, non, on a l'impression.
Effectivement, c'est pas très dur en début d'émission, les Français ont le réflexe maintenant de juste laisser dormir leur argent sur leur compte courant. Il y a des sommes qui sont accumulées sur les comptes courants, donc juste sur le compte en banque sans rémunération, qui sont énormes aujourd'hui, on n'a jamais vu ça. Alors pourquoi ? Parce que d'habitude, vous pourriez vous dire « je place de l'argent sur mon livret A, par exemple ». Mais le livret A, c'est 0,75%, donc c'est vraiment pas grand-chose.
– Jean-Yves, ça ne vaut même pas la peine de placer 500 euros sur le livret A. Enfin, ça fait qu'on gagne… 4 euros, quoi, oui.
C'est peut-être mieux que rien, mais en tout cas, il y a une inflation aussi qui est supérieure à 1%. Donc, en fait, on retombe dans le phénomène du rendement réel négatif. Ouais. Alors après, il y a d'autres actifs et d'autres placements qui sont l'assurance vie, etc., qui sont assez répandus en France.
L'immobilier, mais bon. Alors c'est un peu trop élevé pour beaucoup de gens. La bourse, pourquoi est-ce que les gens n'investissent pas ? Pourquoi est-ce qu'on n'investit pas plus en bourse ?
Parce que les Français ont quand même une certaine mémoire et 2008 a laissé des mauvais souvenirs chez beaucoup, beaucoup de monde. Et en plus, on voit que de plus en plus, les marchés financiers sont assez compliqués avec des acteurs, des algorithmes, etc., qui font fonctionner les marchés financiers. Donc, il y a certains experts qui disent, écoutez, maintenant, pour le Français moyen, la bourse, ça devient... On a le sentiment qu'on risque toujours de se faire avoir par rapport à un ordinateur plus intelligent que soi.
Donc, il y a peu de solutions, peu de conseils à prodiguer en termes d'épargne. Quoi. Voilà. Alors, vous écoutez, on dit c'est impasse. Quoi. On garde sur son compte courant.
C'est difficile de trouver en tout cas un rendement très attractif aujourd'hui.
Oui, Josabelle Coupé-Soubéran.
Je crois qu'on peut quand même, si vous voulez, certes s'inquiéter, mais avoir un regard un petit peu optimiste. Parce qu'au fond, quand les taux sont bas, voire négatifs, eh bien, ça nous encourage à regarder l'avenir. Ça nous encourage, en fait, à... Normalement, ça nous encourage à dépenser.
Oui.
D'accord ? Et donc, à considérer des dépenses d'avenir. Et c'est là où les États, ou les banques centrales également, ont un rôle majeur à jouer. Les États ont un rôle en termes d'impulsion, notamment pour financer la transition écologique, pour l'accélérer. C'est vraiment le moment, en fait, de mettre en place des plans. L'important, c'est pas évidemment d'accumuler des dettes. L'important, c'est de destiner l'argent au bon endroit. Donc, il est temps, là, d'engager la dépense. On peut effectuer ces dépenses dans cet environnement de
taux bas. Le risque, on le connaît.
Il faut les faire au bon endroit.
C'est qu'on s'endette pour des dépenses de fonctionnement, pour augmenter... plutôt pour des dépenses d'investissement et préparer la transition écologique.
Exactement, il faut choisir la dépense.
Jean-Marc Daniel, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Parce qu'alors, on a l'air de dire maintenant que les taux vont rester bas très longtemps. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour se dire « Ah, les taux vont remonter ». Après tout, aux États-Unis, ils sont plus élevés. Qu'est-ce qui pourrait faire remonter les taux d'intérêt ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'on regarde sur les États-Unis, c'est qu'ils sont relativement hauts, ils sont à un peu plus de 2% à 10 ans. Et si on le regarde à 30 ans, parce que les États-Unis sont capables d'emprunter à 30 ans, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent emprunter à 30 ans, mais les États-Unis, l'Autriche emprunte à 100 ans.
À 100
ans. Elle a émis un emprunt à 100 ans. Donc les États commencent à se dire, effectivement, on peut essayer de bénéficier de ces taux.
On est remboursé en 2119.
Oui, absolument. Et donc l'idée quand même, c'est de regarder à 30 ans, où là, on peut considérer qu'on s'éloigne de la politique monétaire, des décisions immédiates, et le taux d'intérêt aux États-Unis varie entre 2,5 et 3%. Pourquoi est-ce qui reste aussi bas, une distance aussi longue et aussi lointaine de la politique monétaire. C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans 30 ans, M. Draghi et M. Powell ne seront plus là. C'est parce que la croissance de long terme est envisagée comme relativement faible.
D'accord.
Et donc, on rejoint ce que disait Mathieu, c'est-à-dire qu'il y a un problème de productivité. D'ailleurs, on a réuni des grands experts en France pour étudier notre productivité. Ils sont arrivés à une conclusion. Ils ont dit l'évolution de la productivité aussi faible est une énigme. Ils ont travaillé.
On est entré dans un monde de croissance faible.
Et sans inflation, donc vous avez...
Alors, c'était l'autre point que je voulais souligner. Pourquoi sans inflation ? On se souvient dans les années 80, les prix augmentaient de 10% par an au début des années 80. Maintenant, ils n'augmentent plus et ça avait même l'air de contrarier l'autre jour le président de la Banque Centrale Européenne qui en était presque à regretter qu'il n'y ait plus d'inflation. Est-ce qu'on sait pourquoi les prix n'augmentent plus en France et même ailleurs ?
Oui, je crois qu'il y a deux raisons essentielles pour les, qui permettent d'expliquer pourquoi les prix n'augmentent pas. Il y a ce qu'on appelle la déflation technologique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où, effectivement, il y a de plus en plus, malgré ces faibles gains de productivité, il y a quand même des entreprises qui innovent. Et ces entreprises qui innovent, elles répercutent l'efficacité nouvelle de leur capital. Elles ont innové, elles ont des machines plus efficaces. Et elles ont le choix entre augmenter les salaires ou baisser leurs prix.
– Ça va toujours pour les prix maintenant.
Elles font baisser les prix parce qu'on est dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel. Et donc, on est dans une situation où, effectivement, les prix baissent parce que la technologie, le progrès technique, ce qui se traduit par cette productivité, même si elle est faible, mais qui est quand même toujours là, va se traduire par des baisses de prix. Et la deuxième raison, c'est que la mondialisation par rapport aux années 50-60, on avait encore des zones qui étaient relativement isolées, relativement repliées sur elles-mêmes. La mondialisation fait que la montée en puissance régulière d'un certain nombre d'économies met sur le marché des produits qui sont des produits qui sont
pas chers. On va faire fabriquer en Chine et demain en Bangladesh et ensuite voilà. En Éthiopie.
Et donc la Chine est déjà trop chère. Maintenant, c'est le Vietnam qui est en train de prendre la place de la Chine sur un certain nombre de produits de base. Et donc, tout ça, ça fait pression sur les prix.
Un autre aspect majeur, c'est la finance. C'est le développement de la finance, l'expansion sans limite de la sphère financière avec des liquidités qui ne font que circuler à l'intérieur de cette sphère financière, qui n'irriguent plus suffisamment l'économie réelle. Et ce ne sont pas les prix des biens et des services de l'économie réelle qui augmentent, mais ce sont les prix des actifs qui sont échangés sur les marchés financiers qui augmentent. C'est là le problème. Et donc, vous êtes dans un climat d'accord. qui est déflationniste dans l'économie réelle et qui est hyperactif au niveau des prix dans la sphère financière. Tout cela a beaucoup à voir avec l'excès de financiarisation de nos économies.
Mathieu Plane, est-ce qu'à force de mettre les taux à 0%, là, l'économie va finir par repartir ? Est-ce que ça marche quand même ?
La vraie question, c'est qu'est-ce qui serait passé si on ne l'avait pas fait ?
Ah, c'est-à-dire on aurait eu une récession façon années 30 ?
Ah bah c'est... Probablement, c'est-à-dire que...
C'était ce qui s'était passé dans les années 30 ?
Dans les années 30, c'est effectivement, il n'y avait pas eu de réaction à la fois des politiques budgétaires et monétaires à la hauteur. Quand Bernanke, en fait, prend ces décisions-là en 2008, il faut savoir que c'était un des grands experts de la crise de 1929. Et donc la question...
Il dit, ce coup-ci, on va baisser massivement les taux d'intérêt, contrairement à ce qu'on avait fait en 1929.
Il faut savoir qu'en 2008, la chute de la production industrielle, elle était supérieure même à ce qu'on avait connu en 1929. Donc on était dans une crise qui était une crise sans précédent. Donc c'est vrai que cette réaction a été nécessaire. La question, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à en sortir, cette situation de taux bas. On voit que l'économie est en train de se japoniser, en fait. Hein. C'est-à-dire que globalement, on a une croissance, mais qui est très faible. On a une inflation qui est juste au-dessus de zéro. Et qu'on a du mal à voir comment on va sortir de ce scénario-là. On voit que la productivité est faible, nos populations vieillissent. Et donc, ça pose la question de est-ce qu'on va être capable.
Les pays amorphes, comme le Japon.
Est-ce qu'on va être capable de revenir à une situation normale ? C'est-à-dire revenir à des taux d'intérêt à 2 ou 3 % ça peut être bien. Ça veut dire qu'on retrouve une situation normale. Les États-Unis sont à 2% parce qu'ils ont de la croissance. Nous, on est à zéro parce que c'est très, enfin, c'est flat. C'est-à-dire que la croissance est quasiment proche de zéro, y compris inflation, dans la zone euro. Et je ne parle même pas de l'Italie qui est même en négatif. Donc, on est dans cette question-là. C'est comment on va réussir aujourd'hui à sortir de cette politique monétaire qui est utile, mais qui crée aussi des entreprises zombies. C'est-à-dire que typiquement, il y a des entreprises qui aujourd'hui sont alimentées par des taux très bas, mais qui ont une rentabilité qui est très basse. Et donc toute la question, et moi je pense que là, il faut le repenser, c'est quel est le rôle de l'État dans cette nouvelle nature de politique économique, c'est avec des taux très bas, où l'État a la capacité justement à générer des investissements très forts pour faire redémarrer l'économie. Ça ne veut pas dire que le privé ne doit pas investir, mais il faut aussi que l'État génère des gros investissements pour faire
juste
redémarrer.
Une remarque par rapport à ce que vient de dire Mathieu, c'est que la grande question qu'on se pose des économistes, c'est est-ce que ce taux d'épargne est très élevé ? Il est là et il devrait permettre de financer les États, ou est-ce qu'il est dû au déficit des États ? C'est-à-dire, les États, en étant en permanence en déficit, génèrent une forme d'anxiété générale dans l'économie. Et est-ce que les gens ne se disent pas, ça va mal se terminer, il vaut mieux que j'ai mis un peu d'argent de côté pour faire face au moment où ça va mal se terminer. Et on peut considérer que c'est ce qui se passe aux États-Unis. Ce qui est spectaculaire aux États-Unis, c'est que la politique de Donald Trump a considérablement augmenté le déficit budgétaire. Ouais. On a dépassé les 1 000 milliards de dollars, le chiffre symbolique des 1 000 milliards de dollars de déficit budgétaire. Bon, donc il y a de la croissance, mais en retour, on voit augmenter considérablement le taux d'épargne des ménages. Et quand on regarde un peu dans les détails, ça correspond, malgré des taux d'intérêt qui restent bas, hein, même s'ils ne sont pas aussi bas qu'en Europe, ça correspond à une montée en puissance de ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne, c'est-à-dire une forme d'inquiétude des populations qui se disent, si l'État désintègre à ce point-là ses comptes, ben, à un moment donné, ça va me retomber dessus.
C'est-à-dire... Oui, c'est cet économiste, Ricardo, qui avait théorisé ça. Quand un État fait beaucoup de déficit, les gens se disent, ben, un jour ou l'autre, je vais avoir des impôts. Et donc, je ne dépense plus.
Voilà, je me prépare contre ça, je commence à économiser parce que je vais me retrouver dans la situation des Grecs. Et donc, je me prépare à affronter la Grèce.
Alors, près de 12 milliards d'euros, c'est ce que pourrait économiser l'État français d'ici 2022 grâce à la baisse des taux d'intérêt. Cette politique de la Banque Centrale Européenne est-elle une bonne nouvelle pour les Européens ? Ou au contraire, est-ce qu'elle ne risque pas de gonfler une dette publique déjà importante ? Élément de réponse avec Juliette Perrault.
Une nouvelle baisse des taux d'intérêt, c'est la porte ouverte ce jeudi par la Banque Centrale Européenne.
Nous avons décidé de maintenir les taux directeurs de la BCE inchangés. Nous nous attendons à ce qu'ils restent à leur niveau actuel ou à un niveau inférieur au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2020.
Dès septembre prochain, le taux de dépôt frappant les liquidités excédentaires des banques pourrait ainsi passer de moins 0,4% à moins 0,6%. L'objectif, les inciter à prêter aux ménages et aux entreprises plutôt que de laisser leurs excès de trésorerie au guichet de la BCE. Une nouvelle phase d'assouplissement pour soutenir l'économie européenne alors que les perspectives d'inflation et de croissance se dégradent.
Les raisons de ce choix sont essentiellement liées à l'incertitude générale qui règne depuis plusieurs mois, plus d'un an. Cette incertitude, comme je l'ai dit à maintes reprises, est liée aux guerres commerciales, aux tensions géopolitiques. Et aujourd'hui, la possibilité d'un Brexit dur est un autre facteur à prendre en compte.
L'annonce a eu un effet immédiat sur les taux d'emprunt à 10 ans allemands et français. Le taux allemand est descendu jusqu'à moins 0,42%, le taux français jusqu'à moins 0,18%. Des taux négatifs qui signifient que les États sont payés pour emprunter. Une situation surprenante mais bien réelle qui concerne certains pays de la zone euro, mais aussi la Suède, la Suisse, le Danemark ou encore le Japon. À l'origine de cette baisse des taux poussée à l'extrême, la crise financière de 2008 qui a conduit les banques centrales à faire chuter les taux d'intérêt pour soutenir l'activité. A priori, une bonne nouvelle pour les États lourdement endettés comme la France, où la dette approche les 100% du PIB. Selon la Commission des finances de l'Assemblée nationale, la persistance des taux bas pourrait ainsi générer une économie de près de 12 milliards d'euros d'ici la fin du quinquennat. Alors que faire de cet argent qui ne coûte rien ? Faut-il l'investir dans de nouveaux projets comme le suggèrent certains ? Pas forcément une bonne idée, selon ce spécialiste des finances publiques.
L'État, par exemple, emprunte en moyenne sur 8 ans. Dans 8 ans, en fait, il va rembourser ses emprunts, parce que si, même si les taux d'intérêt sont négatifs, il faut quand même rembourser les emprunts. Il va les rembourser, et comme il le fait toujours, il va réemprunter automatiquement la même chose. Quels seront les taux d'intérêt dans 8 ans ? Aucun économiste ne peut vous garantir qu'ils seront toujours négatifs et aussi bas dans 8 ans. Donc on risque dans 8 ans, ou un peu plus, ça n'a pas tellement d'importance, on risque de devoir réemprunter à des taux beaucoup plus élevés. Et si à ce moment-là, on a une dette plus élevée, ça sera beaucoup plus difficile.
Du côté du ministère de l'Économie, on l'assure, pas question d'ouvrir les vannes et de profiter des taux négatifs pour augmenter les dépenses publiques.
Bien sûr que les taux d'intérêt sont négatifs, bien sûr que ça allège la charge de la dette, mais je le redis, elle reste élevée. Et je pense que ce ne serait pas responsable d'augmenter l'endettement français. Donc je continuerai à poursuivre une politique de désendettement. Peut-être qu'il faut le faire à un rythme qui soit plus raisonnable pour tenir compte du fait que les taux d'intérêt à long terme, effectivement, sont négatifs. Mais la direction doit rester la même, celle du désendettement.
Dans le même temps, la dette mondiale atteint des niveaux records, 184 000 milliards de dollars en 2017, selon le FMI. Un endettement supérieur à celui d'avant la crise de 2008 et qui inquiète, car avec la politique des taux bas, les États auraient aujourd'hui beaucoup plus de difficultés à réagir en cas de nouveaux chocs financiers.
Alors, je vais trahir un secret. Pendant le sujet, Jean-Marc Daniel, vous ironisiez sur Bruno Le Maire qui disait qu'il menait une politique de désendettement.
Il n'y a pas besoin d'ironiser, il suffit de prendre les chiffres. Quand il est arrivé à Bercy, le déficit public était entre 60 et 70 milliards d'euros. Le déficit de l'État, là, on a dépassé les 100 milliards d'euros.
Mais avouez...
Donc, il n'a pas désendetté, il a augmenté la dette.
Oui, elle frôle les 100%. Là,
et maintenant, la dette continue à augmenter.
Avouez qu'il n'y a aucune incitation à vouloir moins emprunter, à vouloir faire moins de dettes. L'argent est gratuit. Écoutez, c'est une tentation, c'est comme un alcoolique qui entre dans un bar aux heures où c'est gratuit, quoi, non ?
Oui, mais c'est ce que disait François Eckhall, qui est un des intervenants spécialistes des finances publiques bien connus, qui disait, mais quand on se retrouvera dans 8 ans. Et dans 8 ans, même si les taux d'intérêt sont relativement bas, encore une fois, ce qui est important, c'est la capacité qu'a l'État d'honorer ses engagements. Et cette capacité, elle dépend de la croissance économique, de la production, de ce que le pays est capable de produire. Or, si les taux d'intérêt, même s'ils se maintiennent à 2,5-3%, est-ce que la France aura une croissance de 2,5-3% dans 8 ans ? Donc on aura en face des taux d'intérêt qu'on considérera comme faibles, mais qui seront plus négatifs, mais faibles à 2,5 ou 3%. Et avec une croissance très faible, ça commencera à devenir problématique.
Ça dépend de la croissance, de l'investissement.
Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer, Isabelle Coupé-Soubéran, que c'est un peu... Ça ne nous incite pas à faire des économies, ça. Quand l'argent est gratuit, il faudrait... Il y a même l'économiste du FMI qui dit, écoutez, ce n'est pas le moment de faire des économies. Ouais, lâchez-vous.
Bien sûr, ça doit nous inciter à la dépense, ça doit nous inciter à faire circuler l'argent, mais à le faire circuler au bon endroit.
Donc c'est déjà une spécialité française que de dépenser de l'argent public qu'on n'a pas. Là, on peut y aller franchement.
Il ne s'agit pas, si vous voulez, de dépenser n'importe comment, mais de dépenser pour l'avenir de nos enfants, pour réaliser la transition écologique. Et ça, eh bien, ce sera générateur d'une croissance différente, d'une croissance sans doute plus inclusive, d'une croissance moins énergivore, qui nous permettra de vivre dans des sociétés meilleures. Donc les États ont une responsabilité. Je pense que la responsabilité de l'État français et des États de la zone euro, c'est d'engager les investissements
pour faire réaliser des investissements en matière de transition écologique.
On a parlé du Japon.
Oui.
Il suffit d'aller voir ce qui se passe au Japon. Au Japon, la charge d'intérêt de la dette, à l'heure actuelle, c'est 225% de la dette. Et la charge d'intérêt...
Ils ont une dette deux fois supérieure à la nôtre. C'est 225%
du PIB. Et ils ont une charge de la dette qui est exactement la même qu'en 1975, quand les États ont commencé à se réendetter, où le taux d'endettement était aux alentours de 30%, entre 25 et 30%. Donc, ils ont une dette qui a été pratiquement multipliée par 10, et une charge de la dette qui est restée stable. Et c'est devenu l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. On l'a dit dans cette émission à deux ou trois reprises, est-ce qu'on va vers la situation à la japonaise ?
C'est-à-dire qu'on va continuer à s'endetter.
Ils s'endettent, ils ne sont pas plus idiots que nous. Les investissements porteurs de croissance, les investissements d'avenir, la capacité à préparer la génération future,
alors,
le japonais
autre
moyen
question,
la porte comme nous.
Téléspectateurs, depuis 2008, les économies occidentales sont sous perfusion monétaire. Peut-on remonter les taux sans un crack ? Si on remonte les taux, alors un crack de l'État, ça s'appelle quoi ? Une faillite ?
Le défaut.
La banqueroute.
Ça peut être un défaut partiel.
Que la Grèce a connu.
Oui, oui. Alors, on est très loin de cette situation, hein, je vais quand même vous rassurer. Enfin, je pense en tout cas, je pourrais même engager ma chemise.
Mais si les taux remontent brutalement,
il faudrait comprendre pourquoi ils remontent. C'est-à-dire qu'il y a deux façons qu'ils remontent. Soit l'économie va mieux. C'est-à-dire qu'on a un redémarrage de la croissance, on a plus d'inflation et on renormalise. C'est-à-dire qu'on retrouve une situation qui est celle de 2007. Les taux étaient à 4% en 2007 et on n'avait que 60% de dette. Aujourd'hui, on est proche de 100%, on est à zéro. Donc on voit qu'effectivement, la corrélation n'est pas évidente. Et donc, tout ça pour dire qu'effectivement, soit on renormalise la situation avec plus de croissance, plus d'inflation, les taux remontent et ça, c'est la situation vertueuse. La situation à risque, c'est qu'effectivement, les investisseurs décident de vous faire payer une prime de risque. C'est le cas de l'Italie. En disant, en fait, vous êtes trop endetté, il y a un risque sur votre dette, on n'est pas sûr que vous allez rembourser. Donc ça, c'est le cas de l'Italie. La France n'est pas dans cette situation. En fait, je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a une demande très forte pour des titres sécurisés, les titres d'État. L'Allemagne se désendette à vitesse grand V. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il perd quasiment 5 points de PIB par an. C'est-à-dire que dans 10-15 ans, il n'y aura quasiment plus de dette allemande. Les États-Unis aujourd'hui, utilisent massivement les déficits, ça a été rappelé. On a le cas du Brexit de l'autre côté, on a l'Italie qui a beaucoup de dettes et qui présente des risques, donc la France devient une valeur refuge. Aujourd'hui, la France devient une valeur refuge pour les investisseurs.
Donc, malgré tout, nos dettes, nos déficits, notre côté donc, gaulois, on a une signature qui rassure le monde.
Qui rassure, qui a toujours quand même rassuré. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'échiquier mondial, la France est plutôt bien positionnée. Donc ça veut dire, effectivement, c'est pas open bar, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut cibler des investissements. Des investissements, il y a des besoins d'investissement. Il y a même un rapport du MEDEF, et le MEDEF n'est pas forcément pour l'investissement public, il dit qu'il faut 50 milliards par an d'investissement dans les infrastructures de réseau. C'est listé, c'est assez facile. Et dire, face à cette dette, vous constituez un actif. cet actif, il existe. Il peut avoir une rentabilité économique, une rentabilité sociale, une rentabilité écologique. C'est assez facile à comprendre que, effectivement, avec des taux à zéro, ben, vous avez une aubaine sur un certain nombre d'investissements. Et bien sûr, il faut les cibler de façon à ce que ce soit des investissements qui ont du rendement écologique ou social.
Solène Poulenec, est-ce que ces taux à 0%, cet argent-là qui est gratuit, au lieu d'aller dans les investissements d'avenir, dans la transition écologique, on a l'impression qu'on l'a retrouvé un peu n'importe où. Je vous dis ça parce que l'une des explications, alors vous me direz si c'est faux, vrai ou faux, mais de l'envolée du marché de l'art, on a beaucoup parlé du Salvatore Mundi, là, qui valait un demi-milliard de dollars, c'était de dire, ben voilà, l'argent est gratuit et donc ça fait monter toutes les classes d'actifs, l'immobilier, la bourse, les obligations et le marché de l'art. C'est un petit peu ce à quoi on a observé depuis 10 ans avec cette politique de taux zéro.
Quand les placements classiques ne rapportent pas grand-chose, on va aller chercher à investir son argent sur quelque chose qui peut rapporter un peu plus. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des taux bas peut déplacer les liquidités vers certaines classes d'actifs, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de bulle. Et c'est là où effectivement, si la bulle augmente, elle peut éclater un jour, et c'est ce qu'il faut surveiller. Après, il y a des situations, je pense qu'il faut rappeler aussi que la situation dans la zone euro, elles sont très variables. C'est-à-dire que si aujourd'hui on décide de baisser les taux, c'est qu'il y a vraiment des États où la croissance commence à inquiéter, et notamment l'Allemagne, parce qu'ils souffrent en ce moment des guerres commerciales, etc. Donc il faut, la Banque centrale essaye de faire une politique monétaire pour la moyenne, et elle va essayer de regarder s'il y a des bulles d'actifs, des endroits où effectivement c'est inquiétant, mais sa logique, elle est pour la moyenne. Donc c'est assez difficile d'être un banquier central en ce moment parce qu'on baisse les taux, ça va profiter, on le pense, au plus grand nombre, mais effectivement, il faut de l'autre côté surveiller les feux qui peuvent s'allumer.
C'est-à-dire qu'on administre la même politique de taux d'intérêt à l'Allemagne, à la Grèce, au Portugal, etc., alors que ce sont des économies différentes et qui ont des cycles économiques différents, j'imagine, en plus.
Et justement, là, la Banque centrale dit « je baisse les taux pour relancer le crédit ». Et ce qu'on vient de voir avec votre reportage, c'est que le crédit, en France, ça marche très très bien. Mais ce n'est pas le cas dans d'autres pays qui sont l'Italie, l'Espagne, etc. Donc c'est ça la difficulté. Et en France, effectivement, il y a une vigilance particulière sur cet endettement des entreprises et des ménages, parce qu'aujourd'hui, les entreprises, elles peuvent emprunter à tour de bras et certaines peuvent être très endettées et ça peut inquiéter. Effectivement, si les taux remontent, eh ben, ça devient très problématique. Mais pour d'autres pays, il fallait cette relance.
Alors, c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Le mois dernier, Facebook annonçait préparer le lancement pour l'année prochaine d'une nouvelle monnaie, le Libra. C'est ce qu'on appelle une crypto-monnaie, comme le Bitcoin, qui existe depuis une dizaine d'années et qui échappe au contrôle des banques centrales. Voyez ce sujet d'Emilien David, Naoufel El-Kawafi et Dominique Lemarchand.
Dans cette galerie commerçante parisienne, vous pouvez régler vos achats en espèces, par carte bleue, mais aussi en Bitcoin. Cette crypto-monnaie est utilisée ici depuis 3 ans. Le paiement s'effectue alors avec un téléphone.
En tant que commerçant, je monte ce QR code au client, qui lui le flash directement avec son smartphone, et à partir de là, la transaction est validée, et c'est bon, aussi rapide qu'une carte bleue. Ça peut aider aussi certaines personnes qui ont atteint des plafonds au niveau carte bleue. La carte bleue est perdue au cours d'un voyage, c'est une petite source d'argent.
La transaction se fait ici directement du client au commerçant, sans passer par une banque. Et c'est là toute la particularité des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Car normalement, lors d'une transaction dématérialisée, il y a des intermédiaires. D'abord la banque, qui débite l'argent d'un compte. La transaction est enregistrée par une banque centrale, puis créditée sur un compte bénéficiaire. Avec le Bitcoin, tout est décentralisé. Les usagers sont directement reliés entre eux. Chaque transaction est enregistrée dans un livre de compte numérique que l'on appelle blockchain, accessible à tous. Les transactions anonymes sont contrôlées et validées par des programmes informatiques hébergés par des utilisateurs volontaires. Pas de banque, pas d'État, le système est autonome. Le Bitcoin s'obtient avec de l'argent bien réel. Il s'achète sur Internet ou dans des magasins spécialisés comme celui-ci.
Pour combien vous désirez acheter, monsieur ?
380. Bon, ça marche.
La valeur d'un bitcoin évolue chaque jour. Son cours est ici indiqué en permanence.
On affiche les cours des principales crypto-monnaies ainsi que les volumes qui ont lieu sur le marché. C'est des marchés dont le fonctionnement est relativement proche de celui des marchés, notamment de devises.
Aujourd'hui, un bitcoin vaut environ 8600 euros. Mais son cours est très volatile car il peut aussi se revendre. Lors de sa création en 2009, un bitcoin valait moins d'un centime d'euro. Il a décollé en 2017, s'envolant à plus de 15 000 euros. Une folie spéculative qui s'est ensuite écroulée avant de remonter. Mais malgré cette instabilité, le bitcoin resterait une monnaie intéressante selon cet économiste.
Alors c'est une alternative parce que le bitcoin il ne fonctionne pas sur le circuit bancaire, il fonctionne sur Internet. Ça veut dire que s'il y a une crise bancaire de type 2008, en pire avec des faillites bancaires, ce qui peut arriver, eh bien, ceux qui ont du bitcoin seront complètement protégés, ils seront complètement à l'abri. Par exemple, au Venezuela, qui est un cas extrême, mais il y a beaucoup de pays où il y a une forte inflation, ou alors il y a un contrôle d'échange, et on voit que le bitcoin est utilisé concrètement par des acteurs économiques, des entreprises ou des particuliers, pour faire des transactions et pour stocker de la valeur, parce que même si le bitcoin est volatile, ben, il l'est quand même moins que certaines monnaies qui s'effondrent. Voilà.
Aujourd'hui, le nombre d'utilisateurs de ce type de monnaie alternative est limité. 35 millions d'utilisateurs actifs à travers le monde. Mais son usage pourrait bientôt être révolutionné par l'arrivée dans le secteur d'un géant du numérique. This is Libra, and it's just the beginning. Facebook, avec ses 2 milliards d'utilisateurs, veut lancer sa crypto-monnaie Libra. Et déjà, les grandes puissances mondiales s'inquiètent. La semaine dernière, à l'issue du sommet du G7 Finance, Bruno Le Maire s'est montré fermement opposé au projet.
Nous ne pouvons pas accepter que des entreprises privées mettent en place leur propre monnaie sans aucun contrôle démocratique. Nous refusons l'émergence d'États privés qui auraient les mêmes privilèges que les États sans les contrôles qui vont avec, sans les obligations qui vont avec.
Des ministres du G7 Finance ont promis d'agir rapidement contre le projet de Facebook. Le lancement de la Libra est prévu pour le premier semestre 2020.
Alors, les crypto-monnaies sont-elles sûres ou risque-t-on davantage d'arnaques? Jean-Marc Daniel, est-ce que vous achèteriez, alors peut-être pas des bitcoins, mais des Libra? Il y a Facebook derrière qui vous garantit qu'il n'en émettra pas trop pour que vous ne perdiez pas...
Normalement, il n'en émet pas du tout puisqu'il échange ses Libra contre des euros. Il faut que j'apporte déjà des euros au départ. Dans les bitcoins, ce n'est pas tout à fait la même chose, puisque dans les bitcoins, il y a des processus qu'ils appellent de minage. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent le langage des chercheurs d'or. C'est-à-dire qu'ils veulent se référer à une sorte de monnaie qui soit une monnaie extérieure aux États, extérieure aux banques centrales, et une monnaie qui était reconnue sur le plan international par l'ensemble des populations. Alors moi, à titre personnel, je pense d'ailleurs, comme Bruno Le Maire, que pour l'instant, ce sont des fausses monnaies. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a une cotation de toutes ces crypto-monnaies qui est sur une bourse. On peut acheter et vendre. Et il y a 1640 crypto-monnaies qui sont cotées. Alors, certaines sont cotées à hauteur de sommes qui sont affichées comme étant très, très faibles. Mais effectivement, le bitcoin est...
Et les monnaies privées, c'est nouveau ou ça a déjà existé par le passé?
Alors, ça a déjà existé, mais à chaque fois, les gens ont la même réaction que Bruno Le Maire. C'est-à-dire de dire, c'est le souverain, c'est le roi. Un des grands combats des monarchies de la Renaissance, ça a été d'uniformiser les monnaies et de créer une monnaie qui soit une monnaie qui dépend de deux. C'est-à-dire, on l'a oublié, le franc a été créé au XIVe siècle, à l'époque de Jean le Bon, et l'initiateur de l'opération, qui était un franciscain qui s'appelait Horace, me disait, on va l'appeler le franc parce que ça va être une monnaie qui ne se dévaluera pas, qui sera sincère, qui ne mentira pas. On voit ce qui a été fait ensuite, mais et avec comme message, c'est qu'à partir du moment où on a une protection de cette monnaie, vous n'avez pas le droit d'utiliser une autre monnaie que celle-là. Et donc, derrière ces crypto-monnaies, non seulement il y a un projet économique, mais il y a aussi un projet politique. Alors, ce projet politique, il ne m'appartient pas de le juger, mais c'est de dire, écoutez, vous avez le moyen d'échapper à la dictature des États. Et vous avez la possibilité de contourner...
Les taxations qui vont bien sur vos placements.
Les taxations, et puis ce monopole qui est la Banque centrale. La Banque centrale, c'est un monopole. Il décide, M. Draghi, il est là, il décide votre avenir, il baisse les taux, il les monte. M. Greenspan vous dit, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Vous avez la possibilité d'échapper à ces gens-là. Et donc, il est assez normal que Bruno Le Maire réagisse, et je trouve qu'il a une réaction politique en disant, écoutez, on ne va pas créer des États privés.
Mais alors, si on veut échapper à ces monnaies telles que le dollar ou l'euro, dont on dit qu'un jour ou l'autre, il pourrait exploser, d'ailleurs Bruno Le Maire a récemment dit que l'euro était
très
en danger.
Menacé, oui.
Voilà. Mathieu Plane, est-ce que l'or Et est-ce que l'or, d'ailleurs, à cet égard, retrouve un certain attrait dans un monde devenu plus incertain, on se dit au fond, si tout tournait mal, un lingot d'or, ça garderait sa valeur.
Voilà, c'est une forme de sécurité. Donc, plus le risque monte, plus la valeur de l'or monte. Donc, ça,
c'est ce à quoi on assiste en ce moment.
C'est en partie ce à quoi on assiste. C'est aussi le fait que aujourd'hui, c'est aussi les obligations d'État qui montent. Si les taux sont bas, c'est que c'est aussi les obligations d'État. Donc, en fait, finalement, aujourd'hui, on a du mal à trouver du risque. Quelque part, c'est où est-ce que finalement on va investir de façon à garantir une forme d'investissement, mais avec une petite prise de risque. Aujourd'hui, on voit qu'on est à quelque chose d'assez binaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a des taux très bas sur des marchés qui rapportent très peu, avec beaucoup d'épargne, et puis des marchés beaucoup plus risqués. Alors, par exemple, on n'a pas parlé aux États-Unis, mais on a toutes les leverage loans, qui sont des crédits aux entreprises très endettées. Et aujourd'hui, ça représente 1 200 milliards. C'est à peu près équivalent à ce qu'on avait sur les subprimes. C'est aujourd'hui ce qui inquiète quand même aussi les marchés. Et donc, on a effectivement toujours cette idée d'un placement sécurisé. Et l'or, en fait, est une valeur refuge parce que ça a une vraie valeur, l'or. Ce n'est pas juste la valeur qu'on lui donne parce qu'il y a effectivement un consensus autour de la valeur de la monnaie.
Solène Polenek, quand il était question d'implosion de l'euro au tournant des années 2011-2012, quand on se souvient, François Baroin, dans un chapitre, raconte comment on avait imaginé remettre le franc en circulation à cette époque-là, l'or apparaissait comme une alternative et beaucoup de gens se disaient, tiens, il serait peut-être temps d'avoir des lingots d'or dans le coffre.
L'or fait partie des valeurs dites refuges, c'est-à-dire que quand il y a du risque, quand on a peur, quand il y a un sentiment d'anxiété, l'or a tendance à monter, de même que d'autres devises telles que le franc suisse. À ce moment-là, justement, il y avait une envolée du franc suisse. Après, le projet de Facebook est vraiment très différent dans sa philosophie de valeurs refuges. C'est plutôt effectivement un projet quasi-politique
Moi, j'habiterais au Venezuela, je serais ravi de placer mes économies non pas en Bolivar, mais en Libra. J'aurais peut-être plus confiance en Facebook qu'en Hugo Chavez, non ?
Il y a quand même encore beaucoup, beaucoup d'incertitudes autour de ce projet. Déjà, il n'est pas lancé, c'est 2020, et on voit qu'il y a toute une réaction politique, justement, qui s'est mise en place. Donald Trump a tweeté en disant qu'il n'était pas un fan de ce projet. Il y a le Trésor américain qui a dit la même chose. Tout le Congrès américain est très, très méfiant. Et puis le G7 qui dit la même chose. Et pourquoi ? Et parce que ça pose plein de questions. Il y a la question politique, c'est qui contrôle la monnaie ? La question fiscale. En plus, Facebook dit on va faire une fondation en Suisse pour lancer ce projet. C'est quand même, en termes de communication, ça peut être discuté, parce que bon, la Suisse, qui était à un moment vue comme le havre du secret bancaire, et Facebook met sa monnaie en Suisse, qui crée des incertitudes, justement, sur est-ce que l'argent va échapper à l'impôt avec ce système ? Il y a la question du financement du terrorisme, du blanchiment d'argent. Aujourd'hui, les banques sont ultra contrôlé pour ces raisons-là. Pourquoi est-ce qu'un Facebook échapperait à ce genre de régulation ? On ne voit pas très bien. Donc, il y a une très, très forte résistance en ce moment. Donc, de là à ce qu'au Venezuela, demain, on puisse acheter du Libra, ce n'est pas sûr.
Mais Josebel Coupé-Soubéran, dans cette quête de monnaie alternative, il y a, je crois, la Chine, la Russie, qui disent, nous, on ne veut plus être sous la coupe du dollar. Et d'ailleurs, ils achètent de l'or. Non ? Il y a le terme de dédollarisation. Expliquez-nous ce que c'est un petit peu qui circule.
Le terme de... si vous voulez, je pense que le point clé ici, c'est de voir effectivement qu'on est dans des phases d'innovation monétaire assez forte. On est dans une période, en fait, d'instabilité monétaire assez forte, avec l'émergence de ces crypto-monnaies, de ces monnaies digitales, même si le Libra, ce n'est pas tout à fait effectivement une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Mais on est dans des périodes un peu de défiance monétaire, et ça a été dit, c'est un véritable projet politique, en fait, le Libra. Ça émane quand même d'un acteur en situation de domination. Vous disiez, il pourrait échapper à des régulations, mais au fond, il échappe déjà en grande partie à une régulation majeure, qui est l'impôt. Donc, c'est un véritable projet politique, et ça doit inquiéter. Les banques centrales s'en inquiètent.
C'est-à-dire que Facebook se prend pour un État.
Oui, au fond, là, c'est une façon d'asseoir un peu plus sa domination. Ce serait effectivement une...
Avec sa monnaie ses impôts qu'il ne paye pas.
C'est un petit peu ça. Ça ressemble tout à fait à ça. Et donc, on comprend bien, si vous voulez, que les banques centrales et les États s'inquiètent de cela. En même temps, il va falloir que les banques centrales, si elles souhaitent... au fond, ralentir un peu cette émergence et interdire ce type de monnaie, il va falloir qu'elle nous explique véritablement pourquoi. Il va falloir qu'elle nous explique que si ce type de monnaie véritablement s'imposer, eh bien, elle n'aurait plus aucun contrôle sur la monnaie en circulation dans l'économie, mais ça posera la question de savoir si ce contrôle, elles ne l'ont pas déjà un petit peu perdu. Donc il va falloir qu'elles fassent beaucoup de pédagogie, les banques centrales, qu'elles fassent un petit peu de la clarté sur l'efficacité de leur action, et leur action n'est pas super efficace depuis la crise.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, question téléspectateur. Bientôt un rendement négatif pour le livret A. Jean-Marc Daniel, après tout, quand on laisse son argent à la banque centrale, elle vous en prend, pourquoi est-ce que les banques ne font pas la même chose? Alors, est-ce que ça peut y arriver?
Oui, ça pourrait arriver. En fait, normalement, le livret A est très encadré. Il y a une formule qui doit donner le taux auquel on arrive pour rémunérer le livret A. Et puis, le gouvernement a pris des engagements. Notamment, récemment, le Premier ministre avait dit que pendant 3 ans, on ne toucherait pas au 0,75. À l'époque, d'ailleurs, ça avait été présenté comme étant relativement violent, en disant, et si ça remonte à 1,5, pourquoi le livret A n'en bénéficierait pas, et là maintenant c'est plutôt protecteur.
Plutôt généreux.
C'est plutôt généreux. C'est de l'argent qui est à votre disposition, vous pouvez le retirer sur un distributeur automatique de billets et c'est de l'argent qui est rémunéré.
Mais en rationalité pure, au fond, le livret A devrait nous infliger un taux négatif.
Ah oui, absolument, puisque vous avez des taux d'intérêt à 10 ans qui sont égaux à zéro et vous avez un certain risque sur 10 ans. Donc, à quelque chose qui est mobilisable instantanément, vous devriez avoir un taux d'intérêt nul, voire négatif. Mais c'est tellement populaire. Je rappelle qu'il y a 55 millions de livrets A dans ce pays. D'accord. Pour un peu plus de 60 millions d'habitants. Il y a pratiquement un livret A par habitant.
Donc la Caisse des dépôts qui le gère et qui rémunère 0,75 doit avoir beaucoup de mal à s'y retrouver financièrement, non?
Oui,
elle se débrouille,
oui.
Alors, les particuliers peuvent-ils aussi bénéficier de taux négatifs? Est-ce que je peux aller voir ma banque? Jezabel Coupé-Souverain, il a dit, ah ben, écoutez, je vous emprunte 1000 et je vous rendrai 900 l'année prochaine, dans 10 ans, ça vous va?
Bah, pas encore, elles ne le font pas encore. Si elles si elle vous le proposent, prévenez-moi et puis j'irai là.
Enfin, elles font maintenant dans l'immobilier, ça descend à...
Non, les taux d'intérêt négatifs, pour l'instant, ça concerne certains États, sur certaines échéances. Donc quand ils empruntent, par exemple, à 10 ans, c'est vrai pour l'État français, c'est vrai pour l'État allemand, c'est pas encore vrai pour les particuliers. Et au fond, c'est tant mieux... Parce qu'on le disait tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit complètement open bar, si vous voulez. Une dette est une dette, donc une dette, ça se rembourse. Donc même si ça ne coûte pas cher d'emprunter aujourd'hui, il faut le faire en fonction de sa capacité à pouvoir rembourser et le faire pour des dépenses utiles pour l'avenir.
Est-ce un bon plan d'investir dans les crypto-monnaies, Soulaine Poulenec?
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très volatile. Il y a eu quand même des flambées et des descentes assez vertigineuses. Donc, c'est à chacun d'apprécier son appétit pour le risque. À titre personnel, je ne le ferai pas. Voilà, il faut le savoir. Et en plus, il y a un autre phénomène qui est assez inquiétant, c'est qu'il y a eu plusieurs acteurs, opérateurs, bourses de crypto-monnaies qui se sont fait hacker. Il y en a une encore il n'y a pas très longtemps. Donc bon, en tout cas, il faut choisir sa crypto-monnaie et savoir qu'on prend des risques.
Il n'y a pas les pirates derrière. Mathieu Plane, jusqu'où pourraient descendre les taux d'intérêt encore? Et serait-ce une bonne nouvelle? Alors là, on est à moins 0,12 sur les taux à 10 ans.
Oui, mais en Allemagne, je crois qu'on est à moins 0,40.
40, oui. Ouais.
Voilà. Donc, qui aurait pu prévoir des taux négatifs de cette ampleur? Enfin, je veux dire, et surtout durablement négatifs. Donc la question, elle est, effectivement, est-ce qu'on peut aller plus bas? On peut toujours aller plus bas, hein, s'il y a effectivement une demande encore supérieure de ces titres d'État par rapport à l'offre émise de dette, c'est toujours possible. Maintenant, la vraie question, au fond, c'est celle qu'on a posée. C'est est-ce que c'est une situation ponctuelle ou est-ce que c'est durable? Et si c'est ponctuel, effectivement, il va falloir revoir assez vite notre façon de faire les choses. Si c'est durable, effectivement, il y a toute la question de savoir cette opportunité, qu'est-ce qu'on en fait?
Qu'en est-il des notations financières des pays? Quelle est la note actuelle de la France? On se souvient de Nicolas Sarkozy qui était effondré quand la France a perdu son
AAA. Oui, alors elle est en AA, la France.
Donc on a vraiment perdu notre AAA depuis longtemps.
Il y a très peu de pays qui ont le AAA maintenant.
Donc il n'y a plus de pays sûrs dans le monde.
Pratiquement plus aucun pays des sûrs. Même les États-Unis n'ont pas le AAA. Et donc, alors il y a l'Allemagne, il y a le...
Il reste quelques-uns.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les agences de notation qui ont été des figures de proue très en vision, qu'on le voit voyait beaucoup au moment de la crise de l'euro dans les années 2010, 2011, 2012 sont beaucoup moins visibles. Néanmoins, elle continue à sortir des rapports et elle continue à attirer l'attention sur le fait que, on l'a dit, hein, la dette maintenant, c'est la dette globale dans le monde entier, c'est 230% du PIB. Et ce qu'elle pointe du doigt, c'est les endroits où effectivement une dette doit se rembourser. Et donc, quels sont ceux qui potentiellement peuvent ne pas rembourser leurs dettes. Et à l'heure actuelle, le dernier rapport Standard & Poor's est assez clair. Il y a trois endroits où ils disent qu'il faut se méfier. Les entreprises chinoises, on ne sait pas très bien ce que les entreprises chinoises vont rembourser à leurs créanciers, notamment aux créanciers étrangers.
Oui, spontanément, on ne pense pas à la Chine quand on pense à banqueroute.
Oui, la Chine, d'abord, est maintenant en déficit extérieur. Et un certain nombre d'entreprises chinoises sont très endettées. Le deuxième, c'est certains ménages américains. Il y a une inquiétude sur la dette universitaire, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup emprunté pour payer leurs diplômes et qui n'ont pas les revenus correspondant à ce qu'ils attendaient. Donc il y a 40 millions de ménages américains qui ont une dette universitaire. Et sur ces 40 millions, il y en a 8 millions identifiés comme étant dans l'incapacité de rembourser leurs dettes compte tenu des revenus qu'ils tirent du diplôme qu'ils ont souscrit. Et puis alors un certain nombre d'États, et notamment il y a de nouveau une crise des États émergents qui se profile. Un certain nombre d'États africains sont de nouveau en situation délicate. La menace portée sur les États européens jusqu'à une période récente pour des raisons un peu institutionnelles. Et puis là, de nouveau, je ne parle pas du Venezuela, mais il y a quelques États qui rappellent les situations qu'on a connues dans les années 80.
Et la Grèce, qui avait tant inquiété, elle s'est remise à flot. Elle n'est plus dans les sorties du rouge.
Il y a même des jours où les taux d'intérêt sur la dette grecque sont inférieurs aux taux italiens.
L'Italie, parfois, inquiète plus que la Grèce.
Elle inquiète plus que la Grèce, oui.
À long terme, quel est l'impact prévisible des taux bas ou négatifs sur les retraites par répartition et par capitalisation ? Jezabel Coupet-Soubéran, alors si l'épargne ne rapporte plus rien, c'est compliqué d'épargner pour ses vieux jours.
Oui, mais c'est compliqué aussi pour les caisses de retraite d'ailleurs. Hein. Effectivement, ces situations de taux d'intérêt négatif, parce que elles détiennent, si vous voulez, elles détiennent des actifs dont la valeur de remboursement sera plus faible à terme. Donc pour l'équilibre financier de certaines caisses de retraite, c'est compliqué. Pour les assureurs vie avec lesquels certains retraités complètent leur retraite par répartition, c'est compliqué aussi. Moi, je suis pas très très inquiète quand j'entends les banques se plaindre de l'incidence des taux d'intérêt négatifs sur leur rentabilité, mais en revanche, en ce qui concerne les assureurs vie et les caisses de retraite, je pense que ce sont des situations un peu plus problématiques.
Il n'y a pas de critique de cette politique de taux zéro. Les épargnants ne défilent pas dans la rue en disant les taux sont trop bas. En Allemagne, les épargnants critiquent énormément la Banque centrale en disant les taux sont trop bas, relevez-nous les taux d'intérêt pour que enfin nos euros nous rapporte quelque chose.
Oui, mais on comprend bien pourquoi. Si vous voulez, l'Allemagne, c'est un pays d'épargnants. Les taux bas ou les taux négatifs, eh bien, ça coûte aux épargnants. Quand on est un peu plus versé dans la dépense, on est plutôt content de voir les taux plus bas.
Avec ces taux négatifs, les banques vont-elles s'appauvrir ? On dit que les banques souffrent beaucoup des taux négatifs. Parce qu'elles ont du mal à refacturer ensuite, peut-être.
Les banques s'en plaignent beaucoup, parce que quand elles déposent de l'argent à la Banque centrale, aujourd'hui, ça leur coûte cher.
Ah oui, mais bon, l'argent qui travaille, c'est fini, ça, c'est un mythe. Là. Votre argent m'intéresse, maintenant, c'est votre argent me dégoûte.
Hein, pas la Banque centrale. Mais par contre, elle continue à produire beaucoup de crédit, donc elle continue à faire tourner la machine.
Enfin, quand on prête à 1,3, on ne doit pas gagner grand-chose. Hein,
c'est pour ça qu'elle se plaigne beaucoup, mais l'impact des taux négatifs sur la profitabilité des banques est assez débattu. D'ailleurs, en France, on entend beaucoup ce type de plainte de la part des acteurs financiers. Quand on écoute Mario Draghi, le patron de la Banque Centrale Européenne, il est beaucoup plus nuancé en disant non, mais il faut regarder d'un côté tous les avantages énormes que ces taux bas ont apportés. Il faut mettre les deux choses dans la balance, les coûts et les bénéfices, et lui pense clairement que les bénéfices sont supérieurs. Après, il est vrai qu'en ce moment, la Banque Centrale Européenne réfléchit, elle laisse entendre qu'elle réfléchit à un système qui permettrait d'amortir un petit peu le choc que représentent ces taux bas pour les banques.
Qu'est-ce qui explique cette situation ? La guerre économique entre les États-Unis et la Chine incite-t-elle les investisseurs à changer leur comportement ? Mathieu Plane.
Je pense qu'il y a un ensemble de choses. C'est pas tellement nouveau. Hein. Les taux bas, c'est quand même un héritage de la crise. C'est lié à la politique monétaire. Mario Draghi va aller un cran plus loin. Donc on voit mal comment on sortirait de ces taux bas. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un monde géopolitique avec des tensions extrêmes. On voit d'un côté Trump, on voit de l'autre côté la Chine, on voit le Brexit. l'Europe peut paraître un peu plus refuge à part l'Italie. Et c'est l'Italie qui reste quand même une grande question, avec la dette en point de PIB la plus élevée après la Grèce. Donc la question derrière, elle est aussi politique. C'est-à-dire que moi, je pense que s'il y a un risque, avant tout, il est politique si, par exemple, un pays décide de faire un référendum sur une sortie de la zone euro. Je pense que les risques ne sont pas uniquement économiques sur leurs fondamentaux. Derrière, vous avez une banque centrale. La question, elle est vraiment politique, et derrière, la politique se transmet effectivement à la politique monétaire aussi.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez C'est dans l'air à la même heure. Bonne soirée sur France 5. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible sur tous les podcasts. Bonne soirée.